Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
Bonsoir et bienvenue dans l'Amérique et vous, Eric Manila qui est avec vous, Michel Joseph assure la mise en onde. Ce soir, nous parlons de la fin du titre 42, une mesure mise en place aux États-Unis pour limiter l'immigration en temps de crise sanitaire de Covid-19. Cette voie qui conférait la possibilité aux autorités américaines de refouler immédiatement tous les migrants entrés illégalement dans le pays, y compris les demandeurs d'asile, a été levée récemment par le président Joe Biden. Dans cette édition de l'Amérique et vous, nous examinons les conséquences de la levée de cette réglementation et discutons de la pertinence ou de la faiblesse de nouvelles règles qui sont immédiatement entrées en vigueur ce vendredi. Nos invités sont déjà en ligne avec nous. Le premier, c'est Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique. Monsieur Cohen, bonsoir.
Bonsoir.
Et René Lec, analyste politique. Bonsoir, René.
Bonsoir, Eric.
Nous avons également Benoît Eli Awazi Mbambi Kungua, qui est président du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas, CERCLAD en sigle, basé à Ottawa au Canada. Il est l'auteur de la théologie négro-africaine contemporaine. Benoît, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
René Lec, je commence avec vous. Quelles sont les principales conséquences de la fin du titre 42 pour les personnes concernées par cette mesure?
Écoutez, ça dépend à qui on pose la question. Si on la pose à des républicains, ils vont dire que ça va être le chaos qui va se renforcer à la frontière et qui va empirer la crise humanitaire qui existe déjà. Si on interroge le département de Homeland Security, Alejandro Mayorkas lui-même le rappelait hier, il y a à peu près 18 000 personnes qui pourraient se retrouver tous les jours à la frontière. Donc comme il dit, il y a là un challenge, mais bon, l'administration Biden entend rester loyale à ses valeurs.
Herman Cohen, dans quelle mesure la levée du titre 42 peut-elle affecter la sécurité nationale aux États-Unis? Est-ce une erreur de mettre fin à cette mesure?
Oui, je crois que c'est une erreur parce que il y a des gens qui viennent aux États-Unis parce qu'ils ne peuvent pas rester dans leur pays, surtout le Salvador, le Guatemala, même le Mexique, parce que les conditions de vie sont très mauvaises. Donc, ils voudraient venir aux États-Unis. Titre 32 donner le droit à les refouler tout de suite. Et maintenant, il faut les accepter pour des interviews et pour des discussions. Mais quand même, on peut les refuser. Donc, je crois que ça ne va pas changer grand-chose.
Benoît, comment évaluez-vous l'expérience canadienne en matière d'immigration?
Merci Eric. D'abord, il y a quelques semaines, le président Joe Biden était ici en visite au Canada, je pense la fin mars, et ils ont signé avec le Premier ministre canadien la question du tiers pays sûr, hein, parce qu'il y avait encore beaucoup d'immigrants qui venaient des États-Unis pour entrer clandestinement ici. Il y avait des vagues qui arrivaient depuis quelques années. Et en signant cet accord, le Canada, et dès le jour de l'accord, a commencé à retourner les gens qui voulaient entrer au Canada à partir du sol américain. Parce que l'accord dit qu'ils ne peuvent pas venir au Canada s'ils sont passés par les États-Unis, et c'est là qu'ils doivent poser leur demande d'asile. Donc il y a d'abord ça, mais les jours récents, on nous a dit que certains même se sont noyés parce qu'ils tiennent à traverser même par la nage et clandestinement les frontières. Donc, comme les autres ont dit, c'est vrai qu'ici, c'est un défi, mais comme c'est des frontières, les deux pays sont engagés. ce qui se passe aux États-Unis a un impact direct ici au Canada pour, par rapport à la géographie et puis à l'histoire.
Herman Cohen, le titre 42 a été remplacé par le titre 8 et les demandeurs d'asile à la frontière doivent désormais obtenir un rendez-vous sur une application téléphonique qui centralise les demandes ou être refusé dans un des pays traversés avant la demande. Sinon, ils pourront faire l'objet d'une procédure d'expulsion accélérée avec une interdiction d'entrée sur le sol américain pendant 5 ans. C'est une mesure qui est quand même très sévère, très stricte.
Oui, c'est très sévère, mais la politique aux États-Unis maintenant est très anti-immigration. Et c'est un peu raciste parce que je sais qu'ils ont élu Barack Obama, un homme noir, 2 fois, mais il y a certaines bases qui sont des gens de Trump qui n'aiment pas les immigrants, surtout des gens de couleur. Donc, ils ont assez de force politique pour faire une politique des États-Unis anti-immigrants. Et je crois que ils vont laisser très peu de gens entrer dans les prochains mois.
René Lec, il y a eu beaucoup d'entrées aux États-Unis malgré le titre 42 qui était en vigueur. Les chiffres sont énormes.
Oui, effectivement, il y a eu quand même, juste uniquement l'année dernière, et ça encore c'est Alejandro Mallorca qui le disait hier, il y a eu 1 400 000 personnes qui ont été refoulées à la frontière au sud des États-Unis. Et au niveau du titre 42, donc le Title 42, là en question, au total, on a eu 2 800 000 personnes qui ont été refoulées au titre de cette mesure, dite mesure 42. Donc, effectivement, il y a là des chiffres extrêmement impressionnants. Et justement, la levée de ce titre, par rapport à votre question de tout à l'heure, Eric, d'après certains médias, il y aurait 150 000 personnes aujourd'hui en attente au Mexique, justement de la fin de l'article du titre 42. Donc, mais il faut noter, hein, en tout cas, si on voit ce qui s'est passé aujourd'hui, la situation n'est pas aussi chaotique qu'on aurait pu le penser. Mais peut-être qu'il va falloir attendre quelques jours pour voir les choses évoluer.
Et quels sont les arguments en faveur d'une réglementation plus stricte et ce, en faveur d'une plus grande ouverture en matière d'immigration?
Ah, écoutez, c'est une question purement politique. Ça fait quoi? Ça fait plus de 20 ans. Même George Bush, quand il était au pouvoir, même quand les Républicains étaient au pouvoir, George Bush lui-même avait tenté de trouver une formule législative. Il avait été pratiquement minorisé dans son propre parti, malgré le fait que les démocrates étaient partants. Obama, ça a été la même chose. Je crois que c'est passé au Sénat, mais ça n'a pas passé à la Chambre basse. Donc, que ce soit républicain comme démocrate, ils n'arrivent pas à trouver un accord législatif. La question de la crise de l'immigration aux États-Unis ne peut pas se régler juste par des mesures administratives ou des mesures ou des décisions présidentielles. Il faut nécessairement passer par la voie législative. Et la division entre démocrates et républicains sur la question est beaucoup trop importante. Et les républicains sont divisés au sein même de leur propre parti. Donc je crois que je ne vois pas trop de solutions dans l'immédiat, hein, Eric.
Benoît, au Canada, vous êtes familier avec des immigrants. Vous travaillez avec eux dans le cadre de votre organisation. Sur la frontière sud des États-Unis, il y a des Africains qui viennent de ce côté-là. Comment ça se passe?
Tout à fait, Eric. C'est ce qui est tout à fait pas étonnant, mais qui a une certaine gravité. C'est-à-dire, quand on voit parfois des reportages des Africains qui se retrouvent là-bas, donc en Amérique latine, et qui remontent, Colombie, Mexique, jusqu'aux États-Unis, et quand ils racontent leur trajectoire, c'est tout à fait impressionnant. C'est impressionnant. Mais alors, comme vous avez dit, nous avons un centre de recherche sur les communautés noires. Nous posons plusieurs problèmes. Par rapport au Canada, par exemple, c'est une société multiculturelle, mais il y a plusieurs vagues d'Africains. Il y a des, ceux qui sont nés ici, déjà, il y a des siècles qui remontent à la période de la traite, mais il y a aussi les vagues d'Africains qui arrivent maintenant, des immigrants récents, mais il y a aussi la question de l'intégration. Nous travaillons beaucoup sur la question de l'intégration, parce que on s'est rendu compte, même les autorités, que ce soit le Parti conservateur ou le Parti libéral, surtout le Parti libéral quand même, a une grande conscience de l'accumulation des discriminations sur certaines minorités visibles, notamment les Afro-Canadiens. Et la question se pose, même ceux qui sont intégrés, disons, en ayant les papiers légaux, il y a la question de l'intégration. Une société multiculturelle, une société multiraciale, multiethnique, comme vous l'avez dit dans l'introduction, c'est une société aussi où il y a, bon, maintenant, aujourd'hui, on parle du racisme systémique. Ce sont les débats qui remontent souvent ici dans les médias, soit on a arrêté quelqu'un par erreur, ou bien les gens qui sont en prison, ou bien les gens qui accumulent le taux du chômage. Là, vous posez la question de l'intégration, et effectivement, comme les autres interlocuteurs ont dit, il y a une question de la politisation. Hein? Selon qu'il s'agit des libéraux ou des conservateurs, ce n'est pas la même approche par rapport aux immigrants. Mais en même temps, dans le centre que je dirige, il y a aussi la question en filigrane. Comme j'ai dit tout à l'heure, les gens viennent de l'Afrique jusque là-bas, en Colombie, et remontent jusqu'aux États-Unis, et risquent leur vie en traversant des fleuves là-bas limitrophes par la nage, parfois. Il y a des morts, comme on peut voir. Donc ça pose aussi la question des flux migratoires. Souvent, nous disons qu'il y a la mondialisation, le monde est devenu un village. Certes, la vitesse des circulations, des capitaux, des idées, des informations, certes. Je pense que c'est une révolution énorme numérique depuis que l'humanité est là, sur Terre. Mais en même temps, n'oublions pas la positivité, le réalisme. On n'est pas seulement dans le virtuel. Quand on est aux États-Unis, il y a les autorités politiques qui ont leur politique par rapport aux migrations, qui prennent des décisions. Il y a des débats aussi au niveau du législatif, du Parlement, de la Chambre des représentants. Et nous, comme Africains, et quand on voit l'actualité mondiale, nous avons aussi à poser la question de façon rétroactive, d'où partent ces immigrants? Ils partent des pays africains, dont vous connaissez la gestion plus ou moins chaotique de la post-colonie, des indépendances. Et malheureusement, ces flux vont augmenter à cause des représentations paradisiaque de l'Occident, de l'Amérique, du Canada et de l'Europe. Alors qu'au quotidien, il ne suffit pas d'entrer, il faut s'intégrer. Voilà.
Monsieur Cohen, est-ce que le système canadien peut servir d'exemple pour les États-Unis?
Oui, je crois que c'est possible. Si vous regardez les immigrants potentiels et vous choisissez selon leur profession, etc., l'autre jour, par exemple, j'ai rencontré un Nigérien qui habite ici. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Il a dit, je suis médecin. J'ai dit, oh, c'est formidable. Vous êtes combien aux États-Unis? Il a dit, nous sommes 10 000. L'éducation médicale au Nigeria est considérée ici aux États-Unis comme la même qu'aux États-Unis. Et les médecins nigériens et les infirmiers sont le bienvenu aux États-Unis. Donc, je crois que si vous regardez, vous vous concentrez sur les professions, je crois que c'est la meilleure solution. Avoir une immigration qui vise les besoins du pays.
Oui, monsieur Cohen.
Oui.
Oui, mais ces migrants qui viennent de l'Amérique latine, c'est aussi un main-d'œuvre important pour des projets d'agriculture, notamment dans le sud, et ils ont besoin d'une forte main-d'œuvre.
Oui, c'est vrai. Dans la Géorgie, la Louisiane, le Mississippi, on a besoin de ces gens-là. Mais on désire les inviter pour la saison et de les refouler après. C'est pas une bonne politique, à mon avis. Il faut les accepter comme des gens de valeur dans l'agriculture.
Et René Lec, quels sont les enjeux politiques et sociaux liés à la question de l'immigration aux États-Unis et comment les gouvernements peuvent-ils y répondre de manière efficace et équitable?
Oh, équitable, je ne sais pas si on y arrivera un jour, hein, en tout cas, certainement pas de mon vivant. Mes deux filles qui sont américaines, le village planétaire est une réalité pour elles. Avec leur passeport américain, elles peuvent aller partout à travers le monde. Mais mes neveux et mes nièces restées au Sénégal, qui n'ont comme passeport sénégalais, le village planétaire, ce n'est pas vraiment une réalité. Hein. C'est pas, ils ne peuvent pas se lever du jour au lendemain, prendre leur passeport, avoir un visa et traverser le monde. Donc la question de l'équité dans les déplacements, dans la dans le mouvement des populations sur la planète, vraiment c'est une question de fond. On a rarement été dans une situation aussi injuste et où il n'y a aucune équité. Donc c'est une question globale qui se pose à l'échelle internationale, c'est la question de la pauvreté, de la gestion de la pauvreté. Et aux États-Unis, bon, je sais que dans l'administration Biden, comme vous savez, je crois que c'est même Kamala Harris qui est en charge de cela, essaye de voir quelles sont les possibilités pour améliorer les conditions économiques et de développement des pays, justement en Amérique latine, qui sont les plus gros pourvoyeurs de migrants. Mais ce n'est pas des questions faciles, ce ne sont pas des questions qui peuvent se régler du jour au lendemain. Mais en attendant, en tout cas, si on veut régler plus ou moins la question technique du flux migratoire, du chaos qu'il y a à la frontière, des crises humanitaires qui en découlent, ça, il faut le régler politiquement et il faut une entente entre républicains et démocrates. Et malheureusement, le climat politique actuel aux États-Unis, depuis une vingtaine d'années sur cette question-là, n'est simplement pas propice.
Benoît, vous qui discutez souvent avec ces Africains, ces réfugiés qui viennent au Canada, qui passent par cette frontière sud des États-Unis avec le Mexique, il y en a qui arrivent ici et qui viennent au Canada. Est-ce que il y a moyen de stopper ce mouvement en amont? On sait que le mouvement migratoire, c'est un mouvement naturel.
Tout à fait, Eric. Et même ici, c'est tout à fait ce que les autres ont dit. C'est un problème âprement discuté, hein, avec beaucoup de passion, hein, beaucoup de passion, parce qu'il y a aussi, par exemple, récemment, avant la signature de l'accord entre le président Biden et M. Trudeau sur le tiers pays sûr, il y avait, exemple, le premier ministre du Québec, hein, François Legault, ne voulait pas, hein, que le Québec soit envahi par ces hordes d'immigrés, comme ils les appellent, d'une part. Mais d'autre part, comme vous l'avez dit, c'est un mouvement naturel. Mais en même temps, Eric, comme les autres ont dit, nous vivons au niveau global, parce que nous avons, comme vous savez, une revue où nous essayons de mettre par écrit nos idées pour qu'elles influencent les politiques. Hein. Vous avez vu même aux États-Unis, entre les républicains et les démocrates, bien sûr, c'est dans l'arène politique. Mais vous avez oublié, peut-être c'est sous-entendu, l'arène universitaire, académique, hein, où il y a les idées, des arguments qui apparaissent. Hein. Alors dans ces arguments, prenons juste un cas, la grande théorie du grand remplacement, le grand remplacement qui était le refrain, le mantra du président Trump et aussi d'une bonne partie du parti républicain, hein, le grand remplacement, il y a une peur que les immigrants non blancs viennent remplacer, hein, remplacer et puis effacer les réalisations des populations blanches d'une part. Mais d'autre part, comme vous avez posé la question, c'est un mouvement naturel, mais malheureusement, aujourd'hui, nous vivons vraiment un paradoxe mondial, Eric. La mondialisation, comme j'ai dit tout à l'heure, à la fois, elle accélère la vitesse, hein, des circulations des capitaux, des idées, des personnes, mais aussi, comme vous avez dit tout à l'heure, l'autre a dit, il faut avoir le passeport des grandes puissances qui dirigent ce monde. Hein? C'est un rêve de déplacement illimité pour les gens qui ont le passeport canadien, américain, français.
Donc pour vous, c'est une mondialisation à sens unique.
Plus nous allons, plus il y a les barrières qui vont continuer. Donc on ne peut pas stopper naturellement ce mouvement, mais il faut avouer que les politiques en Occident sont tout à fait polarisées sur cette question, et qui est une question explosive.
Monsieur Cohen, tout au début, vous avez dit que mettre fin au titre 42, que c'est une erreur, mais le titre lui-même connaît beaucoup d'insuffisances.
Oui, bien sûr, mais parce que c'était très difficile de décider qui étaient les gens valables et qui étaient les gens non valables. Les gens étaient expulsés sans regarder un par un, mais il n'y avait pas de choix. Les gens arrivaient dans grand nombre. Et les Américains, quand ils voient des gens venir du Sud, surtout des gens de couleur, ils sont contre ça. C'est un point de vue un peu raciste, j'avoue. Mais vous regardez de l'autre côté, il y a des immigrants venant d'Europe, ils viennent très facilement, très facilement.
Et quels sont les autres défis que pose la mise en place de politiques d'immigration efficaces et équitables pour les États-Unis, M. Cohen?
Oh, c'est une question de défis. Combien, vous voulez? On peut avoir des millions de millions si on ouvre les portes. Et je crois qu'il faut viser les gens qui sont utiles pour les États-Unis, les gens qui sont bien pour l'agriculture, les gens qui sont bien pour la médecine, pour la science, etc. Il faut bien viser, et comme moi, j'ai donné des visas dans ma carrière, nous avons cherché des gens de valeur qui ont quelque chose à contribuer aux États-Unis. C'est égoïste, oui, mais tous les pays sont égoïstes comme ça, n'est-ce pas?
René Lec, quelles nouvelles règles pourraient être mises en place pour garantir à la fois la sécurité nationale et les droits des migrants, tout en prenant compte des risques sanitaires liés à l'immigration?
Bon, écoutez, le risque sanitaire, en tout cas tel qu'il avait été posé au niveau du titre 42, là, le Title 42, ce n'est plus tellement de mise, hein, parce que c'était lié au Covid, donc ce n'est plus une question de grande importance. Écoutez, les moyens nécessaires, au moment où je vous parle, il y a eu quoi, 24 000 troupes frontalières qui ont été mobilisées, 1500 militaires qui ont été rajoutés, mais le gouvernement est très clair, c'est totalement insuffisant, mais le budget alloué par le Congrès n'étant pas suffisant, ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc c'est pour ça que bon, même le département de DHS en question, donc l'équivalent du ministère de l'Intérieur ici, dit clairement que bon, la crise, il s'agira de la contenir et qu'ils feront au mieux et qu'ils pensent que étalé sur le temps, si les gens sont un peu patients, sur plusieurs semaines, ils pensent que le plan qu'ils ont sera un plan qui va plus ou moins marcher. Mais quand ils disent qu'un plan va plus ou moins marcher, ça ne va pas empêcher qu'il y aura une crise à la frontière, parce que bon, c'est une crise qui est littéralement permanente. Encore une fois, il n'y a que par la voie législative où on peut mobiliser des fonds suffisants, à la fois pour garder et sécuriser la frontière, mais également essayer de régler les problèmes en amont, peut-être pas les régler, mais en tout cas améliorer la situation en amont des gens pour que les besoins de migration des pays frontaliers ne soient pas aussi importants, qu'ils ne soient pas aussi dépendants d'une économie un peu plus florissante qui est celle des États-Unis.
Benoît, en quelques secondes, est-ce qu'on peut trouver un moyen pour assurer une migration juste et sûre? Il nous reste moins d'une minute.
Bon, en gros, Eric, ici au Canada, en tout cas les partis sont d'accord avec le vieillissement de la population. Il faut vraiment qu'il y ait des flux migratoires pour occuper des fonctions, que ce soit l'agriculture ou la santé. Je crois que aujourd'hui, même les autorités reconnaissent que la main-d'œuvre migratoire, notamment dans le domaine de la santé, hein, qui est aussi un domaine où il y a beaucoup d'argent, les hôpitaux, les maisons de retraite, on a besoin des migrants, et les politiques sont maintenant au niveau des quotas. Donc c'est un processus irréversible, mais il faut le réguler politiquement, et selon les partis qui sont au pouvoir, ça se fait facilement ou difficilement, ça ouvre les portes ou bien ça les referme.
Merci.
Mais en même temps, je termine, il faudrait que les diasporas africaines déjà intégrées donnent le son juste à ceux qui sont en Afrique. Parfois, on a tendance à idéaliser l'Occident alors qu'ici...
Merci Benoît, malheureusement on n'a plus de temps pour continuer la discussion. Merci Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique. Merci à René Lec, analyste politique, et Benoît Bambi Kungua, président du Centre de recherche pluridisciplinaire et les communautés d'Afrique noire.